avez fait noter des deux poèmes mariales.
Oui.
Comment vous expliquez alors que dans l'un des deux, il y a une strophe en plus?
Oui, voilà, exactement. Et ça c'était. Et la strophe en plus était dans la première position, pas la dernière. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'a fait le poète, c'est situer la nouvelle place. Il a situé la nouvelle place, mais sans reproduire à proprement parler le poème. Et c'est ça la chance qu'on ait des manuscrits, on peut le reconstituer. Mais si on n'avait pas eu le manuscrit, ni la première apparition de la manuscrite, on serait dit qu'il y avait une anomalie. Parce que ça faisait une cantique de deux couplets, ça c'était pas concevable. Trois, c'est la norme. Mais ça, c'est classique. Ce travail, ça je ne l'ai pas dit justement, ça vous donne l'occasion de le dire. Ce livre a été écrit, comme beaucoup d'œuvres d'Ayala, sous l'effet d'une certaine urgence. Il était pressé, quelque sorte. Et il n'a pas toujours le temps suffisant pour réaliser matériellement ce qu'il a conçu. Et ça, vous avez un exemple là, il transporte et puis il ne fait pas. Alors que, vous voyez bien que la part originale de ce travail, le fait de transporter un poème d'un endroit à un autre, ce n'est pas un travail très original, c'est un jeu d'échecs. En revanche, les strophes d'introduction qu'il a ajoutées dans la deuxième occurrence, ça c'est un travail qui exige une attention, et là il n'a pas oublié, il n'a pas raté, il a bien fait. Ça, ce n'est pas le même type d'exercice. La réinsertion exige des strophes de transition. Les strophes de transition, je les écris. Bon, ben, le poème, il est là. Il aurait pu se contenter de mettre le premier vers, à la limite. Et puis de dire au copiste, bon, vous le transcrivez. Vous voyez, il y a quelque chose là, dans la matérialité, et je le perçois tout au long du texte, et vous le verrez encore plus dans l'adaptation de Morales, il y a du flou. Il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il doit faire. Probablement parce qu'il n'a pas eu le temps de finir. Et c'est même peut-être pas lui qui a fini la mise au point finale. Il a mis des indications. Vous savez, quel genre de support vous imaginez à ce genre de choses? Ben, c'est des feuilles volantes. Hein? Non, ce qu'il a apporté d'Aubidouche, non. Mais les poèmes, ce sont des feuilles volantes. Quand les gens de l'époque étaient très organisés, ils prenaient des feuilles percées par chemin qu'ils attachaient avec une ficelle. Ce qui leur permettait de faire la ficelle et d'inclure, ben comme nous, dans les casseurs, hein, ce genre de choses. Et ça existe souvent dans les chroniques, surtout dans les chroniques particulières. Mais dans ce genre de travail, non. Quant à l'adaptation des Morales, il y avait des strophes qui devaient être isolées, il y en avait deux ou trois là. C'était un travail de recomposition extraordinaire. Ça me rappelle un petit peu l'autoproportion gardée et puis... avec la différence chronologique, les pensées de Pascal. Vous savez, quand on a reconstitué les pensées de Pascal, c'était des feuilles. C'était des feuilles éparses et on pouvait les ordonner de façon différente. Quoi. Donc, les éditions que l'on a, c'est un choix dans un ordonnancement que Pascal n'avait pas laissé fixe. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent très, très souvent. Là, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs sujets, et en particulier l'adaptation de Morales, c'est difficile parce qu'il y a quand même des sources. Heureusement, la source vous permet de réordonner ça. J'y reviendrai après. Ça vous va comme ça?
Oui, oui.
Très bien.
C'est très intéressant. Par rapport à la figure d'Ayal, en fait, qui est à la fois un auteur et un compilateur, est-ce qu'on doit, du coup, aborder l'Imano de Palacio comme l'acte de compilation, comme un acte de création? Du coup, c'est ça qui conditionne l'écriture de l'Imano?
Oui, vous posez des questions qui est très, très juste, très excellente. Mais en réalité, moi, ma conviction, ma fréquentation, je l'ai souvent dit à Carlos, ma fréquentation d'Ayala me fait penser que ce qui intéressait cet homme, c'était écrire. C'était pas l'œuvre. Il n'allait pas au bout de ce qu'il faisait parce que c'était l'acte d'écrire. C'était un vrai écrivain. Et au fond, il se moquait que ça se termine. Il se moquait de sa diffusion, d'ailleurs. Ces œuvres n'ont pas été diffusées, ou très, très, très peu. Elles sont restées dans un cercle très étroit de familiers. Donc, il y a cet aspect-là, et puis il y a le fait aussi qu'il considère que l'écriture, pour lui, c'est un acte qui le compromet. Je pense que c'est un être profondément religieux. et que il se comportait véritablement en chevalier chrétien en écrivant. Il avait toujours en tête cette idée-là qu'il rendait des comptes, d'une certaine façon. Il cherche pas à séduire un public, il cherche pas à intéresser un public. Il cherche à montrer ce que l'on doit faire quand on est quelqu'un de responsable comme lui et qui a conscience de ce que c'est qu'être un humain et de ce qu'il attend au-delà de la mort. Enfin, c'est un homme qui est visiblement très préoccupé par ça, comme l'étaient tous les gens sur le débat. Je vous signale quand même que Ayal avait 18 ans quand la catastrophe de la peste noire s'est abattue sur tout l'Occident chrétien. C'est un homme qui a vécu ce temps antérieur de facilité et tout, et puis qui a connu l'époque d'après qui a été épouvantable. Vous savez, c'est un traumatisme énorme, la peste noire. Parce qu'en plus, elle s'est renouvelée, il y a eu des pertes du moment qui sont très considérables. Le fait que c'est pas une épidémie unique. Regardez une épidémie unique comme la grippe espagnole de 1918-1919, elle a laissé un traumatisme dans notre société. Mais elle est unique, elle ne s'est pas reproduite. Là, au contraire, c'était une catastrophe qui ensuite s'est reproduite pendant longtemps, très, très souvent. Et ils avaient une vision quand même de la vie, du monde. Bon, ils savaient se ménager des plaisirs, bien entendu. Par exemple, Ayal, je le fais remarquer à un moment donné, il aimait les beaux vêtements. Il était passionné de chasse à l'oiseau. Le faucon, il était séducteur, puisque son neveu dit qu'il « amo mucho mujeres, más que hombres como él, más que hombres como él debería », c'est comme ça. Il avait donc des occasions de prendre la vie du bon côté. Mais il a vécu quand même des circonstances qui l'ont mené plusieurs fois au bord de la mort, et il s'est posé véritablement des questions. En plus, en tant que chef de famille, ce qu'on appelle, comme disent les historiens d'aujourd'hui, pariente mayor de un linaje, il avait une énorme responsabilité. C'était la continuité du lignage et son enrichissement. Entre ses parents et lui, son père et sa mère ont créé deux majorats. Vous savez, le majorat, c'était très important parce qu'il s'agissait de retirer une partie des possessions de la famille, de les constituer en un ensemble indivisible et de les attribuer à un des enfants. Les parents de Pedro de Ayala l'ont fait deux fois. Ils ont fait un majorat à Ayala pour lui, qui était le garçon, le fils aîné, et ils ont fait un majorat, chose que l'on oublie quand on ne perçoit pas, avec les biens de la mère pour la fille aînée. Il y a eu deux majorats. Le garçon et la fille, chacun ont eu son majorat. Les Ceballos, qui étaient de la région de Santander, ont créé un majorat pour la fille aînée. Bien. Pedro López de Ayala ne s'est pas contenté de transmettre son majorat d'Ayala à son fils aîné. Il a créé un second majorat sur ses possessions de Tolède pour son fils cadet, Pedro López de Ayala, qui porte le même nom que lui. Donc, c'était une responsabilité considérable. Ils avaient un rôle économique, principalement, tout à fait important, parce que là, ils faisaient vivre des dizaines de personnes. Hein. C'était véritablement entre les enfants, tous les alliés, et puis également toute la servidumbre, cette énorme servidumbre qu'ils avaient. Dans les différentes propriétés, ils avaient des exploitants, etc. C'était une responsabilité énorme. La vie n'était pas facile pour ces gens-là. D'ailleurs, si vous lisez le Conte de Lucanor, de ce point de vue-là, vous êtes frappé. Le Conte de Lucanor est confronté à des devoirs de seigneur qui sont extraordinairement complexes et variés. À la limite, le roi, c'est plus facile. Parce que la succession elle est naturelle. Et puis, bon, le royaume est une entité qui n'est pas sujette à des variations comme peut l'être une seigneurie et les possessions. C'est très, très différent. Être un grand seigneur, c'était, ou un moyen seigneur, probablement, c'était beaucoup plus compromettant. Et l'écriture, il faut la comprendre comme une des activités, ce type-là. Mais la seule fois où il parle de littérature de distraction, il regrette de l'avoir, il prétend regretter de l'avoir lu, mais enfin, mais je ne vois pas écrire un roman de chevalerie. Je ne vois pas. Il aurait pu. Bon, alors, si. Une chose dont je me suis aperçu dans mon édition, cet homme qui a beaucoup été en France, eh ben, il a vu du théâtre en France. Il a vu des farces. Et dans les passages consacrés aux marchands en particulier, ou aux hommes de loi, c'est farcesque. Ce sont des scènes de farce. Il y a même des apartés. Je ne sais pas si vous... Je le précise en note. À un moment donné, quand le favori du roi, oui, il faudrait que je vous dise deux mots, c'est bon. Quand le favori du roi dit à... il est sollicité par le chevalier qui veut se faire payer, et il s'adresse à ses propres employés, il le fait un aparté. C'est un aparté théâtral. Or ça, ça ne s'invente pas. Or, on n'a pas connaissance de ce genre de théâtre en Espagne, en Castille à l'époque, mais en France, oui, la farce, ça existe. Et c'est plein d'humour, avec des exclamations, c'est très parlé, « Nunca vaya a rocamador », ou bien « je fais... » C'est sans arrêt plein d'expressions qui sont du dialogue théâtral, ou du monologue théâtral. Mais c'est plutôt du dialogue, en l'occurrence. J'étais surpris de voir, très curieusement, j'ai relu quelques farces françaises, et c'est plus monologué que dialogué. Là, c'est du vrai dialogue. Il avait une verve extraordinaire, il était très doué, il aurait pu écrire du théâtre de cette sorte-là, sûrement. Seulement, bon, son statut ne l'autorisait pas à faire ce genre de choses. Il pouvait écrire que de la littérature sérieuse, et surtout qu'on puisse se mettre entre toutes les mains. Et puis, il arrive à un âge où, c'est terrible ça, on le remarque très souvent dans la poésie du Moyen-Âge, les recueils personnels que les poètes font à la fin de leur vie, sont extraordinairement censurés. Vous ne trouvez pratiquement pas trace de la poésie de jeunesse, parce qu'il est entendu qu'un vieil homme ne peut pas avoir du goût pour ce qui a enchanté sa jeunesse. Il doit tourner la page absolument. Et les recueils poétiques qui sont pour nous très intéressants sont ceux qui sont faits par une autre personne. Quelqu'un qui est étranger au poète, c'est le Baen en particulier. Lui, il a tout recueilli, il s'en moque d'une certaine façon. Mais non, un poète de 60 ans, ben, ses poésies de 20 ans, il ne les reproduit pas. Ou alors s'il les reproduit, ça va être arrivé avec peu de scans, il est réécrit. Alors on trouve des copies de l'époque, de la première version, puis on voit, là, alors il dit oui, ben à l'époque j'étais jeune, par exemple, des choses comme ça, où je ne connaissais rien de la vie. Donc il est réécrit pour se faire pardonner de les avoir écrits. Et c'est terrible parce qu'on a perdu beaucoup d'œuvres de cette époque-là à cause de cette autocensure. Voyons, oui, allez-y.
Et du coup, surtout avec la référence de Amor mucho mujeres, est-ce que ça fait pas. Est-ce que Ayala aurait pu écrire des poèmes avec une thématique de Amor Cortés? Ou pas du tout?
Oh, il aurait pu, sûrement. Quand il parle de la Vierge, il en parle comme d'une femme, d'une certaine façon. Hein. Mais bien sûr, je pense qu'il aurait pu. Mais bon, à l'époque, vous connaissez beaucoup, au XIVe siècle, de poésie amoureuse.
Non, mais son enfance avec El Arcipreste.
Oui. C'est sûr qu'il y en a eu, puisque l'archipreste, elle est parodie. Quand on parodie quelque chose, c'est que la chose existe. Bon, ça c'est certain. Mais ce qu'il y a de terrible dans la littérature castillane, ça c'est un de mes refrains, c'est que c'est la mainmise par la monarchie de la création. À partir d'Alphonse X, c'est-à-dire très tôt, au moment où se crée la langue castillane, la création est placée sous l'autorité du roi, qui fait peser une censure extraordinaire, de fait, pas volontaire, mais on cherche à l'imiter, il est exclu. La France, d'où vient la littérature que l'on conserve et qui nous plaît aujourd'hui du Moyen Âge, ce sont des marginaux. C'est Villon, c'est beaucoup d'autres gens, les gens de toute l'école d'Arras, ça. Ce sont des gens qui vivaient dans des seigneuries totalement autonomes. C'est pour ça le rôle Arras, Reims, on jouait, pas Reims, là, mais Arras, on jouait, si, la Champagne aussi, la Champagne était relativement autonome. Il n'y avait pas, tandis qu'en Castille, pays de reconquête, en guerre permanente, l'autorité royale était telle qu'il n'y avait pas place pour une création ou ludique, ou marginale, ou qui n'était pas dans le droit fil de l'idéologie dominante, quoi, pour employer un terme qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est catastrophique. Et heureusement qu'il y avait des corporations dans lesquelles on pouvait se permettre des choses qu'on ne pouvait pas se permettre officiellement. C'est le cas de la cathédrale de Tolède. Les chanoines de Tolède pouvaient se permettre des choses. C'est l'archiprêtre en est un exemple. Mais ça ne sortait pas de leur cercle, d'une certaine façon. Mais alors, ils pouvaient aller assez loin dans ce domaine-là. Mais il faut aller dans des milieux de ce type-là pour trouver véritablement une expression un peu marginale. L'archiprêtre de Vital est un magnifique exemple, mais hélas, pratiquement unique. Symptôme, un petit peu aussi, il y a quelque chose de ce type-là. Mais non, les autres, ils sont soumis à une pression idéologique telle que... Mais, de fait, cette littérature a dû exister. Il n'y a pas eu de théâtre, en revanche. Et ça, c'est quelque chose de très frappant, parce que ça veut dire que, d'abord, il n'y a peut-être pas de collectivité assez dense. La démographie joue un rôle très important, parce que le théâtre, c'est un art urbain. Il faut qu'il y ait une concentration de population suffisante et avec des gens qui ont une forme d'autorité et qui puissent se faire entendre. Bon, c'est le cas en France, évidemment. C'est le cas en Italie aussi. L'Italie, le municipe est vraiment une entité. En Castille, ça n'est pas le cas. En Castille, l'organisation est tout à fait différente. Et il faut attendre la fin du XVe siècle pour voir apparaître un phénomène de ce type-là autour du duc d'Albe. À Tolbe, c'est le début, et c'est le début du vrai théâtre. Et curieusement, le paradoxe est extraordinaire. J'aime bien le dire aussi, même si, bon, c'est peut-être un peu discutable, mais alors que les Français continuent à ressasser des formules archaïques de théâtre, parce qu'ils ont une longue tradition, les Castillans, eux, qui prennent le théâtre à ce moment-là, inventent le théâtre moderne. Parce qu'ils n'ont pas le poids de cette tradition, ils ne l'ont pas, et donc ce qu'ils inventent, c'est le théâtre moderne. À la fin du XVe siècle, on trouve déjà le théâtre moderne. Je crois qu'on est un c'est prodigieux. Et il invente véritablement le théâtre avec une scène, etc.